première partie, chapitre 8. Autant par politesse pour ses amis, à qui les professions de foi dreyfusarde de Saint-Loup étaient pénibles, que parce que le reste m'intéressait davantage, je demandai à mon voisin si c'était exact que ce commandant fit, de l'histoire militaire, une démonstration d'une véritable beauté esthétique. « C'est absolument vrai. »« Mais qu'entendez-vous par là ?»« Eh bien, par exemple, tout ce que vous lisez, je suppose, dans le récit d'un narrateur militaire, les plus petits faits, les plus petits événements, ne sont que les signes d'une idée qu'il faut dégager et qui souvent en recouvre d'autres, comme dans un palimpseste, de sorte que vous avez un ensemble aussi intellectuel que n'importe quelle science ou n'importe quel art, et qui est satisfaisant pour l'esprit. Exemple, si je n'abuse pas.
« C'est difficile à te dire comme cela, » interrompit Saint-Loup.
« Tu lis par exemple que tel corps a tenté... » Avant même d'aller plus loin, le nom du corps, sa composition, ne sont pas sans signification. Si ce n'est pas la première fois que l'opération est essayée, et si pour la même opération nous voyons apparaître un autre corps, ce peut être le signe que les précédents ont été anéantis, ou fort endommagés par la dite opération, qu'ils ne sont plus en état de la mener à bien. Or, il faut s'enquérir quel était ce corps aujourd'hui anéanti. Si c'était des troupes de choc, mises en réserve pour de puissants assauts, un nouveau corps de moindre qualité a peu de chances de réussir là où elles ont échoué. De plus, si ce n'est pas au début d'une campagne, ce nouveau corps lui-même peut être composé de briques et de brocs, ce qui, sur les forces dont dispose encore le belligérant, sur la proximité du moment où elles seront inférieures à celles de l'adversaire, peut fournir des indications qui donneront à l'opération elle-même que ce corps va tenter une signification différente, parce que, s'il n'est plus en état de réparer ses pertes, ses succès eux-mêmes ne feront que l'acheminer arithmétiquement vers l'anéantissement final. D'ailleurs, le numéro désignatif du corps qui lui est opposé n'a pas moins de signification. Si, par exemple, c'est une unité beaucoup plus faible et qui a déjà consommé plusieurs unités importantes de l'adversaire, l'opération elle-même change de caractère. Car, dût-elle se terminer par la perte de la position que tenait le défenseur, l'avoir tenu quelque temps peut être un grand succès, si avec de très petites forces, cela a suffi à en détruire de très importantes chez l'adversaire. Tu peux comprendre que si, dans l'analyse des corps engagés, on trouve ainsi des choses importantes, l'étude de la position elle-même, des routes, des voies ferrées qu'elle commande, des ravitaillements qu'elle protège, est de plus grandes conséquences. Il faut étudier ce que j'appellerais tout le contexte géographique, ajouta-t-il en riant. Et en effet, il fut si content de cette expression que, dans la suite, chaque fois qu'il l'employa, même des mois après, il eut toujours le même rire. Pendant que l'opération est préparée par l'un des belligérants, si tu lis qu'une de ses patrouilles est anéantie dans les environs de la position par l'autre belligérant, une des conclusions que tu peux tirer est que le premier cherchait à se rendre compte des travaux défensifs par lesquels le deuxième a l'intention de faire échec à son attaque. Une action particulièrement violente sur un point peut signifier le désir de le conquérir, mais aussi le désir de retenir là l'adversaire, de ne pas lui répondre là où il a attaqué, ou même n'être qu'une feinte et cacher par ce redoublement de violence des prélèvements de troupes à cet endroit. C'est une feinte classique dans les guerres de Napoléon. D'autre part, pour comprendre la signification d'une manœuvre, son but probable et par conséquent de quels autres elle sera accompagnée ou suivie, il n'est pas indifférent de consulter beaucoup moins ce qu'en annonce le commandement et qui peut être destinée à tromper l'adversaire, à masquer un échec possible, que les règlements militaires du pays. Il est toujours à supposer que la manœuvre qu'a voulu tenter une armée est celle que prescrivait le règlement en vigueur dans les circonstances analogues. Si, par exemple, le règlement prescrit d'accompagner une attaque de front par une attaque de flanc. Si, cette seconde attaque ayant échoué, le commandement prétend qu'elle était sans lien avec la première et n'était qu'une diversion. Il y a chance pour que la vérité doive être cherchée dans le régiment et non dans les dires du commandement. Et il n'y a pas que les règlements de chaque armée, mais leurs traditions, leurs habitudes, leurs doctrines. L'étude de l'action diplomatique, toujours en perpétuel état d'action ou de réaction sur l'action militaire, ne doit pas être négligée non plus. Des incidents, en apparence insignifiants, mal compris à l'époque, t'expliqueront que l'ennemi, comptant sur une aide dont ces incidents trahissent qu'il a été privé, n'a exécuté en réalité qu'une partie de son action stratégique. De sorte que, si tu sais lire l'histoire militaire, ce qui est récit confus pour le commun des lecteurs est pour toi un enchaînement aussi rationnel qu'un tableau pour l'amateur qui sait regarder ce que le personnage porte sur lui, tient dans les mains, tandis que le visiteur, ahuri des musées, se laisse étourdir et migrainer par de vagues couleurs. Mais, comme pour certains tableaux où il ne suffit pas de remarquer que le personnage tient un calice, mais où il faut savoir pourquoi le peintre lui a mis dans les mains un calice, ce qu'il symbolise par là, ces opérations militaires, en dehors même de leur but immédiat, sont habituellement dans l'esprit du général qui dirige la campagne, calquées sur des batailles plus anciennes, qui sont, si tu veux, comme le passé, comme la bibliothèque, comme l'érudition, comme l'étymologie, comme l'aristocratie des batailles nouvelles. Remarque que je ne parle pas en ce moment de l'identité locale. Comment dirais-je, spatiale des batailles. Elle existe aussi. Un champ de bataille n'a pas été ou ne sera pas à travers les siècles que le champ d'une seule bataille. S'il a été champ de bataille, c'est qu'il réunissait certaines conditions de situation géographique, de nature géologique, de défauts même propres à gêner l'adversaire. Un fleuve, par exemple, le coupant en deux, qui en ont fait un bon champ de bataille. Donc, il l'a été, il le sera. On ne fait pas un atelier de peinture avec n'importe quelle chambre. On ne fait pas un champ de bataille avec n'importe quel endroit. Il y a des lieux prédestinés. Mais encore une fois, ce n'est pas de cela que je parlais, mais du type de bataille qu'on imite, d'une espèce de décalque stratégique, de pastiche tactique, si tu veux. La bataille d'Ulm, de Lodi, de Leipzig, de Cannes. Je ne sais s'il y aura encore des guerres, ni entre quels peuples. Mais s'il y en a, sois sûr qu'il y aura, et sciemment de la part du chef, un Cannes, un Austerlitz, un Rosbach, un Waterloo. Sans parler des autres, quelques-uns ne se gênent pas pour le dire. Le maréchal von Schiffer et le général de Falkenhausen ont d'avance préparé contre la France une bataille de Cannes, genre Hannibal, avec fixation de l'adversaire sur tout le front et avance par les deux ailes, surtout par la droite en Belgique, tandis que Bernardi préfère l'ordre oblique de Frédéric le Grand, le Taine plutôt que Cannes. D'autres exposent moins crûment leur vue. Mais je te garantis bien, mon vieux, que beau conseil, ce chef d'escadron à qui je t'ai présenté l'autre jour, et qui est un officier du plus grand avenir, a potassé sa petite attaque du Pratzen, la connaît dans les coins, la tient en réserve, et que si jamais il a l'occasion de l'exécuter, il ne ratera pas le coup, et nous la servira dans les grandes largeurs. L'enfoncement du centre à Rivoli, va, ça se refera s'il y a encore des guerres. Ce n'est pas plus périmé que l'Iliade. J'ajoute qu'on est presque condamné aux attaques frontales, parce qu'on ne veut pas retomber dans l'erreur du 70. Mais faire de l'offensive, rien que de l'offensive. La seule chose qui me trouble est que si je ne vois que des esprits retardataires s'opposer à cette magnifique doctrine, pourtant un de mes plus jeunes maîtres, qui est un homme de génie, Mangin, voudrait qu'on laisse sa place, place provisoire naturellement, à la défensive. On est bien embarrassé de lui répondre quand il cite comme exemple Austerlitz, où la défense n'est que le prélude de l'attaque et de la victoire. Ces théories de Saint-Loup me rendaient heureux. Elles me faisaient espérer que, peut-être, je n'étais pas dupe dans ma vie de doncière à l'égard de ces officiers dont j'entendais parler en buvant du sauterne, qui projetaient sur eux son reflet charmant, de ce même grossissement qui m'avait fait paraître énorme, tant que j'étais à Balbec, le roi et la reine d'Océanie, la petite société des quatre gourmets, le jeune homme joueur, le beau-frère de Le Grandin, maintenant diminués à mes yeux jusqu'à me paraître inexistants. Ce qui me plaisait aujourd'hui ne me deviendrait peut-être pas indifférent demain, comme cela m'était toujours arrivé jusqu'ici. L'être que j'étais encore en ce moment n'était peut-être pas voué à une destruction prochaine, puisque, à la passion ardente et fugitive que je portais ces quelques soirs, à tout ce qui concernait la vie militaire, Saint-Loup, par ce qu'il venait de me dire touchant l'art de la guerre, ajoutait un fondement intellectuel d'une nature permanente capable de m'attacher assez fortement pour que je puisse croire, sans essayer de me tromper moi-même, qu'une fois parti, je continuerais à m'intéresser aux travaux de mes amis de doncière et ne tarderais pas à revenir parmi eux. Afin d'être plus assuré pourtant que cet art de la guerre fût bien un art au sens spirituel du mot. Vous m'intéressez, pardon, tu m'intéresses beaucoup, dis-je à Saint-Loup. Mais dis-moi, il y a un point qui m'inquiète. Je sens que je pourrais me passionner pour l'art militaire, mais pour cela, il faudrait que je ne le crusse pas différent à tel point des autres arts, que la règle apprise n'y fût pas tout. Tu me dis qu'on calque des batailles. Je trouve cela en effet esthétique, comme tu disais, de voir sous une bataille moderne une plus ancienne. Je ne peux te dire comme cette idée me plaît. Mais alors, est-ce que le génie du chef n'est rien? Ne fait-il vraiment qu'appliquer des règles? Ou bien, à science égale, y a-t-il de grands généraux comme il y a de grands chirurgiens, qui, les éléments fournis par deux états maladifs étant les mêmes au point de vue matériel, sentent pourtant à un rien, peut-être fait de leur expérience, mais interprété, que dans tel cas ils ont plutôt à faire ceci, dans tel cas plutôt à faire cela, que dans tel cas il convient plutôt d'opérer, dans tel cas de s'abstenir. Mais je crois bien. Tu verras Napoléon ne pas attaquer quand toutes les règles voulaient qu'il attaquât, mais une obscure divination le lui déconseillait. Par exemple, vois à Austerlitz, ou bien en 1806, ses instructions à l'âne. Mais tu verras des généraux imiter scolastiquement telle manœuvre de Napoléon et arriver au résultat diamétralement opposé. 10 exemples de cela en 1870. Mais même pour l'interprétation de ce que peut faire l'adversaire, ce qu'il fait n'est qu'un symptôme qui peut signifier beaucoup de choses différentes. Chacune de ces choses a autant de chances d'être la vraie si on s'en tient au raisonnement et à la science. De même que dans certains cas complexes, toute la science médicale du monde ne suffira pas à décider si la tumeur invisible est fibreuse ou non, si l'opération doit être faite ou pas. C'est le flair, la divination, genre Madame de Thèbes, tu me comprends, qui décide chez le grand général comme chez le grand médecin. Ainsi, je t'ai dit, pour te prendre un exemple, ce que pouvait signifier une reconnaissance au début d'une bataille. Mais elle peut signifier 10 autres choses. Par exemple, faire croire à l'ennemi qu'on va attaquer sur un point pendant qu'on veut attaquer sur un autre. Tendre un rideau qui l'empêchera de voir les préparatifs de l'opération réelle. Le forcer à amener des troupes, à les fixer, à les immobiliser dans un autre endroit que celui où elles sont nécessaires. Se rendre compte des forces dont il dispose. Le tâter, le forcer à découvrir son jeu. Même, quelquefois, le fait qu'on engage dans une opération des troupes énormes n'est pas la preuve que cette opération soit la vraie. Car on peut l'exécuter pour de bon, bien qu'elle ne soit qu'une feinte, pour que cette feinte ait plus de chances de tromper. Si j'avais le temps de te raconter à ce point de vue les guerres de Napoléon, je t'assure que ces simples mouvements classiques que nous étudions et que tu nous verras faire en service en campagne, par simple plaisir de promenade, jeune cochon. Non, je sais que tu es malade, pardon. Eh bien, dans une guerre, quand on sent derrière la vigilance le raisonnement et les profondes recherches du haut commandement, on est ému devant eux comme devant les simples feux d'un phare. Lumière matérielle, mais émanation de l'esprit, et qui fouille l'espace pour signaler le péril au vaisseau. J'ai même peut-être tort de te parler seulement littérature de guerre. En réalité, comme la constitution du sol, la direction du vent et de la lumière indiquent de quel côté un arbre poussera, les conditions dans lesquelles se font une campagne, les caractéristiques du pays où on manœuvre, commandent en quelque sorte et limitent les plans entre lesquels le général peut choisir. De sorte que le long des montagnes, dans un système de vallées, sur telle plaine, c'est presque avec le caractère de nécessité et de beauté grandiose des avalanches que tu peux prédire la marche des armées. Tu me refuses maintenant la liberté chez le chef, la divination chez l'adversaire qui veut lire dans ses plans que tu m'octroyais tout à l'heure. Mais pas du tout! Tu te rappelles ce livre de philosophie que nous lisions ensemble à Balbec, « La richesse du monde des possibles par rapport au monde réel ». Eh bien, c'est encore ainsi en art militaire. Dans une situation donnée, il y aura quatre plans qui s'imposent et entre lesquels le général a pu choisir, comme une maladie peut suivre diverses évolutions auxquelles le médecin doit s'attendre. Et là encore, la faiblesse et la grandeur humaine sont des causes nouvelles d'incertitude. Car entre ces quatre plans, mettons que des raisons contingentes, comme des buts accessoires à atteindre, ou le temps qui presse, ou le petit nombre et le mauvais ravitaillement de ses effectifs, fassent préférer au général le premier plan, qui est moins parfait mais d'une exécution moins coûteuse, plus rapide, et ayant pour terrain un pays plus riche pour nourrir son armée. Il peut, ayant commencé par ce premier plan dans lequel l'ennemi, d'abord incertain, lira bientôt, ne pas pouvoir y réussir à cause d'obstacles trop grands. C'est ce que j'appelle l'aléa né de la faiblesse humaine. L'abandonner et essayer du deuxième ou du troisième ou du quatrième plan. Mais il se peut aussi qu'il n'ait essayé du premier, et c'est ici ce que j'appelle la grandeur humaine, que par feinte, pour fixer l'adversaire de façon à le surprendre là où il ne croyait pas être attaqué. C'est ainsi qu'à Ulm, Mac, qui attendait l'ennemi à l'ouest, fut enveloppé par le nord où il se croyait bien tranquille. Mon exemple n'est du reste pas très bon. Et Ulm est un meilleur type de bataille d'enveloppement que l'avenir verra se reproduire, parce qu'il n'est pas seulement un exemple classique dont les généraux s'inspireront, mais une forme en quelque sorte nécessaire. Nécessaire entre d'autres, ce qui laisse le choix, la variété. Comme un type de cristallisation. Mais tout cela ne fait rien, parce que ces cadres sont malgré tout factices. J'en reviens à notre livre de philosophie. C'est comme les principes rationnels ou les lois scientifiques. La réalité se conforme à cela, à peu près. Mais rappelle-toi le grand mathématicien Poincaré. Il n'est pas sûr que les mathématiques soient rigoureusement exactes. Quant aux règlements eux-mêmes dont je t'ai parlé, ils sont en somme d'une importance secondaire. Et d'ailleurs, on les change de temps en temps. Ainsi, pour nous autres cavaliers, nous vivons sur le service en campagne de 1895, dont on peut dire qu'il est périmé, puisqu'il repose sur la vieille et désuète doctrine qui considère que le combat de cavalerie n'a guère qu'un effet moral par l'effroi que la charge produit sur l'adversaire. Or, les plus intelligents de nos maîtres, tout ce qu'il y a de meilleur dans la cavalerie, et notamment le commandant dont je te parlais. Envisage au contraire que la décision sera obtenue par une véritable mêlée, où on s'escrimera du sabre et de la lance, et où le plus tenace sera vainqueur, non pas simplement moralement et par impression de terreur, mais matériellement. Saint-Loup a raison, et il est probable que le prochain service en campagne portera la trace de cette évolution, dit mon voisin. Je ne suis pas fâché de ton approbation, car tes avis semblent faire plus impression que les miens sur mon ami, dit en riant Saint-Loup. Soit que cette sympathie naissante entre son camarade et moi l'agaçât un peu, soit qu'il trouva gentil de la consacrer en la constatant aussi officiellement. Et puis, j'ai peut-être diminué l'importance des règlements. On les change, c'est certain. Mais en attendant, il commande la situation militaire, les plans de campagne et de concentration. S'ils reflètent une fausse conception stratégique, ils peuvent être le principe initial de la défaite. « Tout cela, c'est un peu technique pour toi, » me dit-il. « Au fond, dis-toi bien que ce qui précipite le plus l'évolution de l'art de la guerre, ce sont les guerres elles-mêmes. Au cours d'une campagne, si elle est un peu longue, on voit l'un des belligérants profiter des leçons que lui donnent les succès et les fautes de l'adversaire, perfectionner les méthodes de celui-ci, qui, à son tour, enchérit. Mais cela, c'est du passé. Avec les terribles progrès de l'artillerie, les guerres futures, s'il y a encore des guerres, seront si courtes qu'avant qu'on ait pu songer à tirer parti de l'enseignement, la paix sera faite. Ne sois pas si susceptible, dis-je à Saint-Loup, répondant à ce qu'il avait dit avant ses dernières paroles. Je t'ai écouté avec assez d'avidité. Si tu veux bien ne plus prendre la mouche et le permettre, reprit l'ami de Saint-Loup, j'ajouterai à ce que tu viens de dire que si les batailles s'imitent et se superposent, ce n'est pas seulement à cause de l'esprit du chef. Il peut arriver qu'une erreur du chef, par exemple son appréciation insuffisante de la valeur de l'adversaire, l'amène à demander à ses troupes des sacrifices exagérés. Sacrifice que certaines unités accompliront avec une abnégation si sublime que leur rôle sera par là analogue à celui de telle autre unité dans telle autre bataille et seront cités dans l'histoire comme des exemples interchangeables. Pour nous en tenir à 1870, la garde prussienne à Saint-Privat, les Turcos à Frechwiller et à Wissembourg. Ha ! Interchangeable ! Très exact ! « Excellent. Tu es intelligent, » dit Saint-Loup. Je n'étais pas indifférent à ces derniers exemples, comme chaque fois que, sous le particulier, on me montrait le général. Mais pourtant, le génie du chef, voilà ce qui m'intéressait. J'aurais voulu me rendre compte en quoi il consistait. Comment, dans une circonstance donnée, où le chef sans génie ne pourrait résister à l'adversaire, s'y prendrait le chef génial pour rétablir la bataille compromise, ce qui, au dire de Saint-Loup, était très possible et avait été réalisé par Napoléon plusieurs fois. Et pour comprendre ce que c'était que la valeur militaire, je demandais des comparaisons entre les généraux dont je savais les noms, lequel avait le plus une nature de chef, des dons de tacticien, quitte à ennuyer mes nouveaux amis, qui, du moins, ne le laissait pas voir, et me répondait avec une infatigable bonté. Je me sentais séparée, non seulement de la grande nuit glacée qui s'étendait au loin et dans laquelle nous entendions de temps en temps le sifflet d'un train qui ne faisait que rendre plus vif le plaisir d'être là, ou les tintements d'une heure qui, heureusement, était encore éloignée de celle où ces jeunes gens devraient reprendre leurs sabres et rentrer, mais aussi de toutes les préoccupations extérieures, presque du souvenir de Madame de Guermantes, par la bonté de Saint-Loup à laquelle celle de ses amis qui s'y ajoutaient donnait comme plus d'épaisseur, par la chaleur aussi de cette petite salle à manger, par la saveur des plats raffinés qu'on nous servait. il donnait autant de plaisir à mon imagination qu'à ma gourmandise. Parfois, le petit morceau de nature d'où ils avaient été extraits, bénitier rugueux de l'huître dans lequel restent quelques gouttes d'eau salée, ou sarment noueux, pampre jauni d'une grappe de raisin, les entourait encore, incomestibles, poétiques et lointains comme un paysage, et faisant se succéder au cours du dîner les évocations d'une sieste sous une vigne et d'une promenade en mer. D'autres soirs, c'est par le cuisinier seulement qu'était mise en relief cette particularité originale des mets, qu'il présentait dans son cadre naturel comme une œuvre d'art. Et un poisson, cuit au courbouillon, était apporté dans un long plat en terre où, comme il se détachait en relief sur des jonchées d'herbes bleuâtres, infrangibles mais contournés encore d'avoir été jetés vivants dans l'eau bouillante, entouré d'un cercle de coquillages, d'animalcules satellites, crabes, crevettes et moules, il avait l'air d'apparaître dans une céramique de Bernard Palissy. « Je suis jaloux, je suis furieux !» me dit Saint-Loup, moitié en riant, moitié sérieusement, faisant allusion aux interminables conversations à part que j'avais avec son ami. « Est-ce que vous le trouvez plus intelligent que moi ? Est-ce que vous l'aimez mieux que moi ? Alors, comme ça, il n'y en a plus que pour lui. » Les hommes qui aiment énormément une femme, qui vivent dans une société d'hommes à femmes, se permettent des plaisanteries que d'autres qui y verraient moins d'innocence n'oseraient pas. Dès que la conversation devenait générale, on évitait de parler de Dreyfus, de peur de froisser Saint-Loup. Pourtant, une semaine plus tard, deux de ses camarades firent remarquer combien il était curieux que, vivant dans un milieu si militaire, il fût tellement dreyfusard, presque antimilitariste. « C'est, dis-je, ne voulant pas entrer dans des détails, que l'influence du milieu n'a pas l'importance qu'on croit. » Certes, je comptais m'en tenir là et ne pas reprendre les réflexions que j'avais présentées à Saint-Loup quelques jours plus tôt. Malgré cela, comme ces mots-là, du moins, je les lui avais dit presque textuellement, j'allais m'en excuser en ajoutant « C'est justement ce que l'autre jour... » Mais j'avais compté sans le revers qu'avait la gentille admiration de Robert pour moi et pour quelques autres personnes. Cette admiration se complétait d'une si entière assimilation de leurs idées qu'au bout de 48 heures, il avait oublié que ces idées n'étaient pas de lui. Aussi, en ce qui concernait ma modeste thèse, Saint-Loup, absolument comme si elle eût toujours habité son cerveau, et si je ne faisais que chasser sur ses terres, crut devoir me souhaiter la bienvenue avec chaleur et m'approuver. Mais oui, le milieu n'a pas d'importance. Et avec la même force que s'il avait peur que je l'interrompisse ou ne le comprisse pas, la vraie influence, c'est celle du milieu intellectuel. On est l'homme de son idée. Il s'arrêta un instant, avec le sourire de quelqu'un qui a bien digéré, laissa tomber son monocle et posant son regard comme une vrille sur moi. « Tous les hommes d'une même idée sont pareils, » me dit-il d'un air de défi. Il n'avait sans doute aucun souvenir que je lui avais dit peu de jours auparavant ce qu'il s'était en revanche si bien rappelé. Je n'arrivais pas tous les soirs au restaurant de Saint-Loup dans les mêmes dispositions. Si un souvenir, un chagrin qu'on a, sont capables de nous laisser au point que nous ne les apercevions plus, ils reviennent aussi, et parfois de longtemps ne nous quittent. Il y avait des soirs où, en traversant la ville pour aller vers le restaurant, je regrettais tellement Madame de Guermantes que j'avais peine à respirer. On aurait dit qu'une partie de ma poitrine avait été sectionnée par un anatomiste habile, enlevée et remplacée par une partie égale de souffrance immatérielle, par un équivalent de nostalgie et d'amour. Et les points de suture ont beau avoir été bien faits, on vit assez malaisément quand le regret d'un être est substitué aux viscères. Il a l'air de tenir plus de place qu'eux. On le sent perpétuellement. Et puis, Quelle ambiguïté d'être obligé de penser une partie de son corps. Seulement, il semble qu'on vaille davantage. À la moindre brise, on soupire d'oppression, mais aussi de langueur. Je regardais le ciel. S'il était clair, je me disais, peut-être elle est à la campagne, elle regarde les mêmes étoiles. Et qui sait si, en arrivant au restaurant, Robert ne va pas me dire « Une bonne nouvelle, ma tante vient de m'écrire, elle voudrait te voir, elle va venir ici. » Ce n'est pas dans le firmament seul que je mettais la pensée de Madame de Guermantes. Un souffle d'air un peu doux qui passait semblait m'apporter un message d'elle, comme jadis de Gilberte dans les blés de mes églises. On ne change pas. On fait entrer dans le sentiment qu'on rapporte à un être bien des éléments assoupis qu'il réveille, mais qui lui sont étrangers. Et puis, ces sentiments particuliers, toujours quelque chose en nous s'efforce de les amener à plus de vérité, c'est-à-dire de les faire se rejoindre à un sentiment plus général, commun à toute l'humanité, avec lequel les individus et les peines qu'ils nous causent nous sont seulement une occasion de communiquer. Ce qui mêlait quelque plaisir à ma peine, c'est que je la savais une petite partie de l'universel amour. Sans doute de ce que je croyais reconnaître des tristesses que j'avais éprouvées à propos de Gilberte, ou bien quand le soir à Combray, maman ne restait pas dans ma chambre, et aussi le souvenir de certaines pages de Bergotte, dans la souffrance que j'éprouvais et à laquelle Madame de Guermantes, sa froideur, son absence, n'était pas lié clairement comme la cause l'est à l'effet dans l'esprit d'un savant. Je ne concluais pas que Madame de Guermantes ne fût pas cette cause. N'y a-t-il pas telle douleur physique diffuse, s'étendant par irradiation dans des régions extérieures à la partie malade, mais qu'elle abandonne pour se dissiper entièrement si un praticien touche le point précis d'où elle vient? Et pourtant, avant cela, son extension lui donnait pour nous un tel caractère de vague et de fatalité qu'impuissants à l'expliquer, à la localiser même, nous croyons impossible de la guérir. Tout en m'acheminant vers le restaurant, je me disais « Il y a déjà 14 jours que je n'ai vu Madame de Guermantes. » 14 jours, ce qui ne paraissait une chose énorme qu'à moi, qui, quand il s'agissait de Madame de Guermantes, comptait par minute. Pour moi, ce n'était plus seulement les étoiles et la brise, mais jusqu'aux divisions arithmétiques du temps qui prenaient quelque chose de douloureux et de poétique. Chaque jour était maintenant comme la crête mobile d'une colline incertaine. D'un côté, je sentais que je pouvais descendre vers l'oubli. De l'autre, j'étais emporté par le besoin de revoir la duchesse. Et j'étais tantôt plus près de l'un ou de l'autre, n'ayant pas d'équilibre stable. Un jour, je me dis, il y aura peut-être une lettre ce soir. Et en arrivant dîner, j'eus le courage de demander à Saint-Loup. Tu n'as pas par hasard des nouvelles de Paris?
Si, me répondit-il d'un air sombre. Elles sont mauvaises.
Je respirais, en comprenant que ce n'était que lui qui avait du chagrin, et que les nouvelles étaient celles de sa maîtresse. Mais je vis bientôt qu'une de leurs conséquences serait d'empêcher Robert de me mener de longtemps chez sa tante. J'appris qu'une querelle avait éclaté entre lui et sa maîtresse, soit par correspondance, soit qu'elle fût venue un matin le voir entre deux trains. Et les querelles, même moins graves qu'ils avaient eues jusqu'ici, semblaient toujours devoir être insolubles. Car elle était de mauvaise humeur, trépignait, pleurait, pour des raisons aussi incompréhensibles que celles des enfants qui s'enferment dans un cabinet noir, ne viennent pas dîner, refusant toute explication, et ne font que redoubler de sanglots quand, à bout de raison, on leur donne des claques. Saint-Loup souffrit horriblement de cette brouille, mais c'est une manière de dire qui est trop simple et fausse par là l'idée qu'on doit se faire de cette douleur. Quand il se retrouva seul, n'ayant plus qu'à songer à sa maîtresse, partie, avec le respect pour lui qu'elle avait éprouvé en le voyant si énergique, Les anxiétés qu'il avait eues les premières heures prirent fin devant l'irréparable. Et la cessation d'une anxiété est une chose si douce que la brouille, une fois certaine, prit pour lui un peu du même genre de charme qu'aurait eu une réconciliation. Ce dont il commença à souffrir un peu plus tard furent une douleur, un accident secondaire dont le flux venait incessamment de lui-même, à l'idée que peut-être elle aurait bien voulu se rapprocher, qu'il n'était pas impossible qu'elle attendît un mot de lui, qu'en attendant, pour se venger, elle ferait peut-être, tel soir, à tel endroit, telle chose, et qu'il n'y aurait qu'à lui télégraphier qu'il arrivait pour qu'elle n'eût pas lieu. Que d'autres, peut-être, profitaient du temps qu'il laissait perdre, et qu'il serait trop tard dans quelques jours pour la retrouver, car elle serait prise. De toutes ces possibilités, il ne savait rien. Sa maîtresse gardait un silence qui finit par affoler sa douleur, jusqu'à lui faire se demander si elle n'était pas cachée à Doncières ou partie pour les Indes. On a dit que le silence était une force. Dans un tout autre sens, il en est une terrible à la disposition de ceux qui sont aimés. Elle accroît l'anxiété de qui attend. Rien n'invite tant à s'approcher d'un être que ce qui en sépare. Et quelle plus infranchissable barrière que le silence! On a dit aussi que le silence était un supplice, et capable de rendre fou celui qui était astreint dans les prisons. Mais quel supplice! Plus grand que de garder le silence, de l'endurer de ce qu'on aime. Robert se disait, que fait-elle donc pour qu'elle se taise ainsi? Sans doute elle me trompe avec d'autres. Il disait encore, qu'ai-je donc fait pour qu'elle se taise ainsi? Elle me hait peut-être, et pour toujours. Et il s'accusait. Ainsi, le silence le rendait fou, en effet, par la jalousie et par le remords. D'ailleurs, plus cruel que celui des prisons, ce silence-là est prison lui-même. Une clôture immatérielle, sans doute, mais impénétrable. Cette tranche interposée d'atmosphère vide, mais que les rayons visuels de l'abandonné ne peuvent traverser. Est-il un plus terrible éclairage que le silence, qui ne nous montre pas une absente, mais mille, et chacune se livrant à quelque autre trahison? Parfois, dans une brusque détente, ce silence, Robert croyait qu'il allait cesser à l'instant, que la lettre attendue allait venir. Il la voyait, elle arrivait. Il épiait chaque bruit. Il était déjà désaltéré. Il murmurait « La lettre, la lettre !» Après avoir entrevu ainsi une oasis imaginaire de tendresse, il se retrouvait piétinant dans le désert réel du silence sans fin. Il souffrait d'avance, sans en oublier une, toutes les douleurs d'une rupture qu'à d'autres moments il croyait pouvoir éviter, comme les gens qui règlent toutes leurs affaires en vue d'une expatriation qui ne s'effectuera jamais et dont la pensée, qui ne sait plus où elle devra se situer le lendemain, s'agite momentanément, détachée d'eux, pareil à ce cœur qu'on arrache à un malade et qui continue à battre, séparé du reste du corps. En tout cas, cette espérance que sa maîtresse reviendrait lui donnait le courage de persévérer dans la rupture, comme la croyance qu'on pourra revenir vivant du combat aide à affronter la mort. Et comme l'habitude est de toutes les plantes humaines, celle qui a le moins besoin de sol nourricier pour vivre et qui apparaît la première sur le roc en apparence le plus désolé, peut-être en pratiquant d'abord la rupture par feinte, aurait-il fini par s'y accoutumer sincèrement. Mais l'incertitude entretenait chez lui un état qui, lié au souvenir de cette femme, ressemblait à l'amour. Il se forçait cependant à ne pas lui écrire, pensant peut-être que le tourment était moins cruel de vivre sans sa maîtresse qu'avec elle dans certaines conditions, ou qu'après la façon dont il s'était quitté, attendre ses excuses était nécessaire pour qu'elle conservât ce qu'il croyait qu'elle avait pour lui, sinon d'amour, du moins d'estime et de respect. Il se contentait d'aller au téléphone, qu'on venait d'installer à Doncières, et de demander des nouvelles, ou de donner des instructions à une femme de chambre qu'il avait placée auprès de son ami. Ses communications étaient du reste compliquées et lui prenaient plus de temps parce que, suivant les opinions de ses amis littéraires relativement à la laideur de la capitale, mais surtout en considération de ses bêtes, de ses chiens, de son singe, de ses serins et de son perroquet, dont son propriétaire de Paris avait cessé de tolérer les cris incessants, la maîtresse de Robert venait de louer une petite propriété aux environs de Versailles. Cependant, lui, à Doncières, ne dormait plus un instant la nuit. Une fois, chez moi, vaincu par la fatigue, il s'assoupit un peu. Mais tout d'un coup, il commença à parler. Il voulait courir, empêcher quelque chose. Il disait « Je l'entends, vous ne... » Il s'éveilla. Il me dit qu'il venait de rêver qu'il était à la campagne, chez le maréchal des logis-chefs. Celui-ci avait tâché de l'écarter d'une certaine partie de la maison. Saint-Loup avait deviné que le maréchal des logis avait chez lui un lieutenant très riche et très vicieux qu'il savait désirer beaucoup son ami. Et tout à coup, dans son rêve, il avait distinctement entendu les cris intermittents et réguliers qu'avait l'habitude de pousser sa maîtresse aux instants de volupté. Il avait voulu forcer le maréchal des logis de le mener à la chambre, et celui-ci le maintenait pour l'empêcher d'y aller. Tout en ayant un certain air froissé de tant d'indiscrétion que Robert disait qu'il ne pourrait jamais oublier. « Mon rêve est idiot » ajouta-t-il encore tout essoufflé. Mais je vis bien que, pendant l'heure qui suivit, il fut plusieurs fois sur le point de téléphoner à sa maîtresse pour lui demander de se réconcilier. Mon père avait le téléphone depuis peu, mais je ne sais si cela eut beaucoup servi à Saint-Loup. D'ailleurs, il ne me semblait pas très convenable de donner à mes parents, même seulement à un appareil posé chez eux, ce rôle d'intermédiaire entre Saint-Loup et sa maîtresse, si distingué et noble de sentiment que put être celle-ci. Le cauchemar qu'avait eu Saint-Loup s'effaça un peu de son esprit. Le regard, distrait et fixe, il vint me voir durant tous ces jours atroces qui dessinèrent pour moi, en se suivant l'un l'autre, comme la courbe magnifique de quelque rampe durement forgée, d'où Robert restait à se demander quelle résolution son ami allait prendre.